5h en temps universel, 7h à Paris.
Andréane Mélard.
Et bonjour à vous, RFI Matin commence. C'est maintenant notre tour du monde quotidien de l'info jusqu'à 10h. Quelle journée pour la France ce 14 juillet 2026, la fête nationale, le défilé militaire sur les Champs-Élysées. On y sera dans nos éditions, la France qui se bat contre de gigantesques incendies, on y sera. Et puis ce soir, la demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne, on y sera également. Et on en parle dans votre journal, Martin Guez, bonjour.
On est partout aujourd'hui, bonjour André Mélard, bonjour à toutes et à tous.
Ce 14 juillet, donc le jour de gloire est arrivé. Reste à savoir si ça sera pour la France ou pour l'Espagne.
Qui se retrouve donc ce soir à Dallas en demi-finale de la Coupe du Monde. Il y a 2 ans, les deux équipes s'affrontaient déjà en demi-finale. C'était à l'Euro pour une victoire espagnole. Difficile de dégager un favori. Pour ce soir, nous appellerons notre envoyé spécial au Mondial, Cédric de Oliveira, dès le début de ce journal. Nous serons ensuite à bord de l'Ocean Viking. Embarquement exceptionnel pour notre reporter Elliot Braché, qui est parti des côtes italiennes hier soir avec ce navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée. L'association a sauvé 43 000 personnes ces 10 dernières années sur l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. La France qui attend donc ses bleus ce soir et qui attend le traditionnel défilé du 14 juillet, ce sera dans 3 heures. Un défilé XXL cette année, le dernier sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et puis enfin, la consommation d'eau qui explose dans l'Hexagone, en cause bien sûr les canicules qui s'enchaînent en Europe.
Un carré d'as pour finir. Rarement les demi-finales d'une Coupe du Monde auront paru si relevées des demi qui débutent aujourd'hui.
Et oui, les 4 premières équipes au classement FIFA qui se retrouvent dans le dernier carré. La logique est parfaitement respectée avec d'abord France-Espagne ce soir à Dallas, au Texas, où l'on retrouve notre Texan du moment, Cédric d'Oliveira. Bonjour Cédric.
Bonjour Martin et bonjour André.
Alors Cédric, vous allez commenter un sacré match ce soir sur les antennes Afrique de RFI. Tout simplement la première nation du classement mondial, à savoir la France face à la troisième, l'Espagne. Deux équipes invaincues dans ce mondial qui ont soigneusement tenu à se rejeter le statut de favori ces derniers jours.
Oui, effectivement, Didier Deschamps qui d'ailleurs ne s'est pas privé ce lundi en conférence de presse. Bien sûr que l'Espagne est favorite, je l'avais dit en début de tournoi, elle a pris un but en 6 matchs, elle est redoutable cette équipe. Et de l'autre côté, Luis de la Fuente n'a pas hésité à vanter la qualité des attaquants français. Même Lamine Yamal, le prodige barcelonais, a reconnu que la France était une équipe spéciale. Alors il est vrai, Martin, qu'on a du mal à dégager un favori. D'un côté, la France, sans doute l'équipe la plus séduisante, la plus impressionnante du tournoi. 6 victoires en 6 matchs, 16 buts marqués, dont la moitié par Kylian Mbappé, le capitaine au sommet de son art et qui ambitionne de ramener une 3e étoile à la France. Et puis de l'autre, la Roja, équipe au collectif simulé qui lui a permis de remporter l'Euro il y a 2 ans et qui a beaucoup de certitudes dans son jeu. Ce sera une belle opposition de style et au bout, une place en finale, quoi qu'il en soit. Et je vais réutiliser les mots de Didier Deschamps. Ce sera spectaculaire.
On espère. On a hâte de voir tout ça. Merci beaucoup, Cédric de Oliveira, en direct de Dallas, donc sur RFI France-Espagne. À suivre à partir de 18h47, temps universel, très précisément, sur nos antennes Afrique. Et puis l'autre demi-finale, on ne l'oublie pas, elle posera demain à Atlanta, l'Angleterre, à l'Argentine.
Et ce matin, RFI embarque à bord de l'Ocean Viking, navire humanitaire qui sillonne les eaux de la Méditerranée.
Un navire affrété par l'ONG française SOS Méditerranée qui vient de fêter ses 10 ans, période durant laquelle l'association a secouru près de 45 000 personnes ayant tenté la traversée. Depuis le début de l'année, l'Organisation internationale pour les migrations recense déjà plus de 1200 morts en mer Méditerranée. C'est l'un des pires bilans enregistrés depuis 2014. L'Ocean Viking, à bord duquel a pu exceptionnellement donc embarquer notre reporter Elliot Braché, déjà sur le pont ce matin. Bonjour Elliot.
Bonjour Martin.
Et Elliot, le navire vient donc à la rescousse de bateaux en détresse sur cette route migratoire. On le disait, parmi les plus mortels au monde. Vous êtes monté à bord il y a quelques jours. C'était à Syracuse, en Sicile, la grande île italienne de la Méditerranée. Et cette fois-ci, ça y est, vous avez levé l'ancre.
Oui, l'Ocean Viking a quitté dans la nuit les côtes siciliennes. Nous nous trouvons désormais aux abords de Malte et naviguons vers le sud. Après plusieurs semaines de maintenance à quai, l'Ocean Viking est fin prêt. Avec ses 69 mètres de long, sa coque rouge fraîchement repeinte. À bord, le navire contient une clinique, 3 embarcations semi-rigides pour les sauvetages, des tonnes de matériel et un équipage professionnel d'une 30aine de personnes.
Et Elliot, justement, avant de monter à bord, vous avez pu passer plusieurs jours avec cet équipage et vous avez pris part à toute une série d'exercices avant de prendre le large. On va écouter votre reportage, on vous retrouve juste après.
l'alerte est donnée. En quelques minutes, trois petits bateaux à moteur sont mis à flot. Ancien marin pêcheur, Tanguy coordonne l'exercice.
Chaque type de bateau en détresse a une approche particulière. Bah, par exemple, ce qu'on appelle un rubber boat, qui est un gros zodiac sans quilles, sans structure rigide, très fragile. Ça devient un piège dans lequel les gens se noient à l'intérieur. Avec tout ce qui est ce qu'on appelle wooden boat, donc bateau bois, bateau en fer, qui sont des cercueils flottants. C'est très instable, donc le problème c'est le retournement. Et à partir de là, on essaye de trouver c'est quoi la meilleure approche. Ensuite, il faut évacuer les gens. On a encore une fois tout un tas de techniques. Les débarquer sur le bateau mère.
Sur le pont, l'équipage répète les gestes médicaux d'urgence. Rebecca, l'une des trois soignantes à bord, prépare les sauveteurs à un afflux massif de blessés.
On rappelle les gestes de base à tous les membres de l'équipage. Chacun doit savoir comment procéder à un massage cardiaque. Déshydratation, coup de chaleur, hypothermie, noyade, traumatisme, brûlure au fioul. La mer Méditerranée est dangereuse. Et avec la criminalisation permanente des ONG qui réduit nos capacités de patrouiller en mer, cet environnement est devenu d'autant plus mortel.
Cap au sud pour le navire et son équipage. Après l'intensité des entraînements, l'heure est au repos et à la concentration. Elliot Brachet à bord de l'Ocean Viking pour RFI.
À bord de l'Ocean Viking, justement, on vous retrouve, vous êtes toujours avec nous. Elliot, on l'entendait dans votre reportage, le navire qui doit faire face à de très nombreux cas de figure. Alors, comment se profilent les prochains jours pour vous?
Alors déjà, hormis la chaleur intense, les conditions météo s'annoncent plutôt bonnes. Si tout va bien, dans moins de 24 heures, le bateau sera opérationnel dans les eaux internationales au large de la Libye. L'équipage devra alors scruter l'horizon, être attentif aux moindres signaux de détresse, se tenir prêt à intervenir à tout moment, de jour comme de nuit. C'est en été que se font la plupart des traversées, alors la probabilité de naufrage ou de disparition en mer est élevée. Et c'est aussi à ce moment-là que les gardes-côtes libyens effectuent le plus d'interceptions en mer, forçant les embarcations chargées d'exilés à prendre plus de risques. C'est aussi une source d'appréhension pour l'équipage. En août dernier, l'Ocean Viking a été attaqué par des gardes-côtes libyens qui ont ouvert le feu, tirant une centaine de balles sur le navire humanitaire.
Merci beaucoup, Elliot Brachet, reporter embarqué à bord de l'Ocean Viking. On vous retrouvera tout au long de la semaine sur RFI et vous pouvez également lire toutes nos informations sur les 10 ans de l'association SOS Méditerranée sur notre site Info Migrants.
Retour à la case départ ou presque au Moyen-Orient.
Ah oui, difficile d'imaginer que le 17 juin, les États-Unis et l'Iran signent un protocole d'accord qui faisait alors espérer une fin rapide et globale du conflit qui dure depuis le 28 février. Car si Donald Trump estime qu'un accord avec l'Iran est toujours possible, les États-Unis poursuivent leur frappe en Iran. Et ce, pour la troisième nuit consécutive. Et ils réinstaurent un blocus maritime sur les ports iraniens. Blocus qui entrera en vigueur à 20h, temps universel. Le président américain qui envisage désormais, tout comme Téhéran, de créer un péage dans le détroit d'Ormuz. Et puis l'Iran qui a par ailleurs annoncé cette nuit avoir frappé une base américaine à Bahreïn. Les Émirats arabes unis disent eux avoir été visés dans le détroit d'Ormuz par des tirs iraniens, attaque de missiles contre deux de leurs tankers, ce qui a provoqué la mort d'un membre d'équipage.
Au Mali à présent, Martin, un nouveau procès pour tentative de complot. Il concerne des personnalités réputées proches du premier président de la transition.
À savoir Mandao, renversé en 2021. Six personnes, dont le colonel Kassoum Goïta, l'ancien chef de la sécurité d'État, ou encore Kalilou Doumbia, ancien secrétaire général de la présidence, seront jugées à partir de ce mardi devant les chambres criminelles de la cour d'appel de Bamako. Après avoir été enlevés et torturés, ils sont enfermés depuis près de 5 ans dans les geôles maliennes. David Bachet.
On attend depuis si longtemps. Ils auront enfin l'occasion de prouver leur innocence devant des juges. Pour les avocats des 6 co-accusés, l'espoir suscité est à la mesure des épreuves endurées. Enlevés par la sécurité d'État en 2021, certains avaient été atrocement torturés avant que leur cas ne soit officiellement transmis à la justice. 3 civils et 3 porteurs d'uniformes sont accusés de tentatives de complot contre le gouvernement. Les faits exacts qui leur sont reprochés n'ont pas été dévoilés. Lors de la première période de la transition, le professeur de droit Kalilou Doumbia avait été secrétaire général de la présidence. Le colonel Kassoum Goïta avait dirigé les services de renseignement. Les autres, un adjudant-chef de la sécurité d'État, un commissaire de police, un opérateur économique et un marabout. Depuis le début de l'affaire, Hier, leurs avocats estiment qu'il s'agit d'un procès politique visant d'anciens proches du président Bandao, renversé par les militaires qu'il avait installés au pouvoir après avoir annoncé un remaniement du gouvernement. Après des tortures et 5 années de détention, il y a forcément des séquelles, déplore un proche. Ils n'ont pas bénéficié des soins adéquats. Selon leurs avocats, les 6 co-accusés seront pourtant bien tous présents à la barre pour répondre des accusations dont ils espèrent être enfin blanchis.
Explication signée David Bachet du service Afrique de RFI.
RFI 7h10 à Paris, dans un peu moins de 3 heures, place au défilé XXL du 14 juillet.
Près de 7000 militaires sur les Champs-Élysées, dont 500 de la coalition des volontaires et 25 Ukrainiens. Coalition qui se réunissait hier à Paris et qui a annoncé la création d'une coalition anti-balistique au soutien de l'Ukraine. Un défilé tout à l'heure donc, qui sera le dernier d'Emmanuel Macron comme président de la République. Cette année, le chef de l'État français veut en faire un moment exceptionnel, un moment aussi de démonstration de la puissance militaire française. Valérie Gasse.
13 juillet 2026, comme chaque année depuis 10 ans, à la veille de la fête nationale, Emmanuel Macron s'adresse aux armées. Quand arrivent les derniers mots de ce dernier discours, le président a la gorge nouée de manière inhabituelle.
Je veux ici, en ce jour, vous redire ma reconnaissance d'être à vos côtés depuis 2017. C'est ma plus grande fierté.
Rien à voir avec la tonalité de sa première allocution dans le même cadre en 2017.
Je suis votre chef. Les engagements que je prends, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire.
Nouveau chef de l'État, nouveau chef des armées, Emmanuel Macron voulait affirmer son autorité. À l'heure de préparer son départ de l'Élysée, il change de registre et envoie un message très politique.
Partout où on flatte les nationalismes, en France ou ailleurs, on se trompe. Le patriotisme, oui, le nationalisme, jamais. Ne faisons pas bégayer l'histoire.
Aux mots vont s'ajouter les images d'un défilé militaire hors normes sur les Champs-Élysées avec la coalition des volontaires pour l'Ukraine à l'honneur. Cette coalition dont Emmanuel Macron a été l'instigateur. Plus de troupes qui défilent, plus d'avions qui survolent les Champs-Élysées pour montrer encore plus la puissance de l'armée française. C'est la trace qu'Emmanuel Macron veut laisser pour son dernier 14 juillet.
Et ce 14 juillet 2026 qui marque aussi les 10 ans de l'attentat de Nice, dans le sud de la France, qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Vous retrouverez notre reportage France à ce sujet juste après le journal.
Enfin, la France où la consommation d'eau explose.
Des canicules à
in my coat pocket where I kept my rebel red. Felt I was invincible, you wrapped around my head. Now different lives I lead, my body lives on lead. The last two lines may read incorrect until said. The lead is terrible in flavor, but now you double as a paper maker. I despise you sometimes, I love to hate the fight. And you in my life is like sipping on straight glory.
L'intention de tenir l'entête 24h sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur?
Principe actif. 102.4 FM.
Bal de Bamako. Bal de Bamako. Bal de Bamako. J'étais dans la...
Comme un vertige sur la ville, moi, l'ami bout blanc. Dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise. Peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali des merveilles, le mali Dieu crée la flamme. Le mali danse dans mon âme.
On y soit qui mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mali danse, au son des balles de Bamako.
Balle de Bamako, balle de Bamako, balle de Bamako. J'ai dans la peau. Balle de Bamako, balle de Bamako, balle de Bamako. J'ai dans la peau.
Moi le capitaine, tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible, aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
Béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Faire des thunes ou alors savoir ce que tu veux sans lâcher les études. Alors sans trop de peine, je finis l'école obligatoire. Mais après que faire? La vie je l'adore quand je l'observe. Viré du collège, c'est l'école de com par défaut. J'ai peu d'affaires en cours, j'ai la cote de l'homme assez drôle. Le ras-le-bol des profs, ils interdisaient alcool et drogue. Je faisais rien de mal, moi j'écrivais l'album. Les codes de la société me touchent peu. L'école me donnait donc peu l'impression d'être où je veux. Je voulais tout plaquer, j'en ai raté des heures pour gratter mes feuilles. Pourquoi s'emmerder 3 ans pour un bout de papier? Je faisais tâche dans l'équipe des étudiants modèles. J'ai fait ce que j'aime pour éviter que la vie parte en déprime. Jusque là, pas grand chose, j'ai taffé quelques fois. Bientôt 23 ans et mon avenir ne sait que faire de moi.
Je veux m'évader, ici j'ai pas de contrôle. Cogiter sur ma barque, même si les vagues sont hautes. Qu'on me laisse tranquille, au large, au calme je compose. Histoire de profiter d'être en vie. Je veux m'évader, ici j'ai pas de contrôle. Cogiter sur ma barque, même si les vagues sont hautes. Qu'on me laisse tranquille, au large, au calme je compose. Histoire de profiter d'être en vie.
Je devrais sortir dans la rue avec des pancartes, militer contre ma nonchalance et lui filer de grandes classes. C'est réel, comme dire que les poteaux et l'attaquant ne s'aiment pas. J'ai dit à maman, je veux faire de l'art et puis je garde espoir. Bah oui, paraît que ça peut servir. Jour après jour, je crois que c'est avec ça que j'existe. La musique, ce sera pour le plaisir, sinon quoi d'autre? En 2010, j'ai reçu 100 balles des droits d'auteur. Moi-même, je sais que j'en vivrai pas et c'est pas le but. Je me dis que la passion meurt quand naissent les calculs. J'encaisse et j'assume mes choix. Sachant que le temps qui passe en traître efface une mémoire. Malgré les contraintes, je préfère me faire plaisir. Écrire, j'essaye de taffer des sons bien. Y'a plus le choix, 2012 arrive au pas. L'impression que c'est soit le kiff ou la vie maussade.
Je veux m'évader, ici j'ai pas de contrôle. Cogiter sur ma barque, même si les vagues sont hautes. Qu'on me laisse tranquille, au large, au calme je compose. Histoire de profiter d'être en vie. Je veux m'évader, ici j'ai pas de contrôle. Cogiter sur ma barque, même si les vagues sont hautes. Qu'on me laisse tranquille, au large, au calme je compose. Histoire de profiter d'être en vie.
Je veux la vie belle, top. Ma petite femme et de fidèles potes sans mystère job. Pour que la grisaille devienne peace and love. J'y vois clair, même si le flambeau s'est souvent.